En direct du salon des Thermalies qui se tenait à Paris du 20 au 23 janvier, retrouvez le journal de la santé et du bien-être naturel consacré au décryptage des étiquettes dans l'alimentation. Avec le docteur Jacques Labesca, notre chroniqueur, Emmanuelle Chauvin, diététicienne, le tout savamment orchestré par notre journaliste Pascal Marcadji.
Donc, bienvenue à tous dans notre salon de Thermalie, mais pour le journal de la santé et du bien-être au naturel. Et je crois que c'est Hippocrate, c'est vous qui allez le dire, Emmanuel, mais Hippocrate disait que la santé commençait dans l'assiette, paraît-il.
Tout à fait.
Et je crois qu'avant de prendre effectivement des médicaments, il faut peut-être déjà pas faire d'erreur alimentaire. Seulement, pas faire d'erreur alimentaire, c'est pas facile parce que nous avons beaucoup de sources d'informations. Nous avons donc beaucoup d'informations. Et j'allais dire trop d'informations tue presque l'information. Et maintenant, si tout le monde se met à faire de la diététique, certes, mais on se repère plus, on a du mal. Et nous faisons tous nos courses. Et alors, c'est là le problème. Comment je dois faire mes courses, Emmanuel ?
Eh bien, disons que nous sommes généralement noyés d'informations. Comme vous dites, et une personne trouve que le temps passé dans un supermarché, dans son magasin préféré, est toujours trop long. On aura tendance à piocher un peu au hasard dans les rayons, on va être attiré par la dernière marque publicitaire qu'on aura vue à la télévision, le dernier produit phare qui va être allégé en sucre, sans matière grasse, à base de stevia, plutôt que produits sucrés au stevia. On va en revenir tout à l'heure pour bien avoir ces notions différentes entre à base et contenant uniquement du stevia pour sucrer. Donc les personnes sont noyées par les informations et lors de nos cures, puisque je travaille dans un centre de thalassothérapie et dans le cadre des cures minceurs, nous faisons une visite.
Alors vous leur apprenez justement à lire les étiquettes.
Voilà,
alors à Saint-Jean-de-Mont, vous êtes diététicienne, au centre de thalassothérapie, vous leur apprenez à lire les étiquettes. Alors apprenez-moi, comment je fais pour faire mes courses? Je prends une liste déjà, je prends une liste de courses à faire.
Il faut se dire qu'il y a des mentions obligatoires sur les étiquettes lorsque vous voulez connaître un aliment.
Cette mention... Alors, je vais mettre mon grain de sel, là, mais franchement, s'il faut une liste de courses plus une liste de courses, c'est-à-dire je vais acheter du beurre et puis je vais avoir la liste de courses pour savoir si j'achète le bon beurre, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu trop de littérature là-dedans?
Non, il n'y a pas besoin d'avoir deux listes de courses, il y a simplement besoin d'avoir deux yeux, voire une paire de lunettes, voire même parfois une loupe. L'inconvénient, c'est que sur vos emballages, vous avez une mention.
Donc dans le chariot, une loupe.
Dans le chariot, une loupe.
D'accord.
On est aussi chargé que quand on va à la montagne, il ne faut rien oublier pour aller faire ses courses. La loupe,
simplement
le dictionnaire.
La loupe. La loupe. Et hélas, notre porte-monnaie.
La loupe. Alors, on regarde quoi? Quand vous avez devant vous un produit, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier?
En premier, il y a à rechercher la liste d'ingrédients sur le produit. Cette mention
les ingrédients
est obligatoire.
Sur les composants qui sont dans le produit.
Vous avez une obligation d'avoir toute la liste d'ingrédients notée sur l'emballage.
Si on a
du premier au dernier, que ce soit deux ingrédients ou que ce soit 40. Voilà pourquoi, lorsqu'un produit va être bidouillé, si vous me permettez le terme, on va vous ajouter plein d'additifs, plein de colorants, plein de bidules, machin. Vous savez, tous les petits E que vous lisez sur vos étiquettes.
Et les E, ce sont les additifs. Tous les E sont les additifs.
Que ce soit un colorant,
des conservateurs,
que ce soit un conservateur, un exhausteur de goût, etc., qui peuvent être naturels ou synthétiques.
D'accord. Alors, on reprend les ingrédients. Alors, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a un ordre pour les ingrédients?
Il y a obligatoirement un ordre. On est obligé de vous noter la liste d'ingrédients du produit le plus volumineux dans l'emballage au produit le moins volumineux dans l'emballage. Mais la liste doit être complète. Complète pour des raisons d'allergie. Vous avez même parfois une liste d'ingrédients complète et on vous met juste à la suite peut contenir des fruits à coque, peut contenir de la lécithine de soja, peut contenir...
L'huile de palme. Je savais que j'allais me provoquer.
On ne vous le mettra pas comme ça. Vous aurez l'huile de palme dans la liste d'ingrédients, mais là où ils sont très filous en industrie alimentaire, c'est qu'on n'est pas obligé de vous mettre l'origine du produit. Donc lorsque le produit est bas de gamme, voire un produit inintéressant pour la santé, on a le droit de noter le produit... Très largement, style pour l'huile de palme, on va vous noter huile végétale.
Huile végétale.
mention obligatoire, donc absolument tous les ingrédients par ordre décroissant.
Tout à fait.
En fonction de leur quantité.
Tout à fait. On n'est pas obligé de vous mettre la quantité de chaque ingrédient, mais l'ordre décroissant. Donc on va retrouver, par exemple, je vais vous donner mon produit phare anti-diététique, qui est une très belle pâte à tartiner à base de chocolat.
On voit ce dont vous voulez parler.
Voilà, où l'on vous dit dans la publicité que c'est du lait écrémé, des noisettes et du chocolat.
Alors oui, justement, Emmanuel, oui d'accord, ok, j'ai ma loupe, je regarde les ingrédients, la liste d'ingrédients, oui, mais je vais pas passer 3 heures à chaque étiquette. Quels sont les ingrédients qu'il faut absolument qu'ils fassent tilt, quoi, tout de suite qui marquent.
Eh bien, vous avez deux catégories d'ingrédients extrêmement recherchés, on va dire, en termes de nutrition, par leur côté négatif. Oui. C'est le sucre et le sel.
D'accord.
Donc, si le sel apparaît très tôt dans votre liste d'ingrédients, si vous avez déjà dans votre liste d'ingrédients des aliments qui contiennent du sel, vous savez que lorsque vous mangez du fromage, il y a du sel. Lorsque vous mangez...
Donc, quand il y a marqué sucre,
oui,
c'est pas bon.
C'est pas bon.
Mais il n'y a que marqué sucre, on ne peut pas avoir des sucres cachés.
Le sucre est tout à fait décomposé en des milliers d'appellations. Vous pouvez avoir sucre, vous pouvez avoir sirop de glucose, vous pouvez avoir fructose, vous pouvez avoir sirop de blé modifié, vous pouvez avoir...
Le vocabulaire est riche.
Est riche.
Et alors, je peux avoir des produits sans sucre, mis sans sucre, et qui ont quand même des sucres.
Oui, puisque lorsque vous avez la mention « sans sucre » au singulier, indiqué sur votre emballage, c'est sans la molécule saccharose, votre sucre, le sucre blanc de table. Mais vous pouvez très bien avoir du sirop de glucose à l'intérieur de votre produit. Vous pouvez très bien avoir de l'amidon modifié à l'intérieur de votre produit, qui va vous faire monter l'index glycémique très très vite. Et donc, si votre index, quand on parle d'index glycémique élevé, c'est la capacité qu'a un aliment à faire monter la glycémie dans votre sang. Donc c'est
un
quand même
sucre.
Pas anodin,
un
ça n'aura
sucre.
Pas un goût forcément sucré reconnu gustativement, mais c'est un mauvais sucre quand même, que l'on va utiliser à tire-larigot pour épaissir, pour rendre onctueux un produit. On
donc déjà,
ça, par exemple, dans les laitages allégés.
Je dois regarder dans l'étiquette déjà en quelle place est le sucre. Parce que plus il est haut, plus c'est mauvais, quoi, finalement.
Plus il est haut, plus c'est mauvais, mais il peut très bien être bas et caché. Vous avez par exemple des laitages, vous allez avoir en liste d'ingrédients, en premier le lait, le yaourt, en second le fruit, en troisième le sucre, mais en quatrième le sirop de glucose et en cinquième le fructose. Et tout ça additionné, vous aurez égal 3, qui est plus grand que 2, le fruit par exemple.
Il faut être malin, il faut vraiment prendre sa loupe.
On a mis comme ennemi le sucre,
Le sel,
vous avez parlé du sel. Alors le sel, tant même la HAS, enfin notre autorité sanitaire, a dit qu'il ne fallait pas qu'on mange trop de sel, parce que en fait on consomme beaucoup trop de sel.
Oui, alors il y a déjà une différence entre la notion sel et la notion sodium. Lorsque vous consommez un produit lambda, sur l'étiquette, vous n'aurez pas la teneur en sel du produit, mais la teneur en sodium.
Et donc sel égale sodium, sodium égale sel.
Sodium est une partie, on va dire, de la molécule.
Oui, parce que c'est du chlorure de sodium.
C'est chlorure de,
oui,
sodium.
Chlorure de sodium.
Donc en réalité, lorsque vous lisez sur une étiquette sodium, ce n'est pas la teneur en sel du produit. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est qu'on vous parle parfois d'un produit riche en sel et on va avoir du 150 mg de sodium par litre d'eau, par exemple. Ça va être le cas dans une eau gazeuse moyennement salée, comme la Badoit, par exemple. Et on va avoir juste à côté dans le rayon une eau considérée comme eau lambda que tout le monde peut acheter, alors qu'il y a une vingtaine d'années, cette eau n'existait que dans les pharmacies. Qui va être les Vichy par exemple, Vichy Célestin ou Vichy Saint-Thiard, où vous allez aller jusqu'à 1700 mg de sodium par litre. Vous imaginez bien que le résultat ne va pas être le même sur votre circulation sanguine, sur votre tension, lorsque vous buvez la première eau par rapport à la deuxième. Et pourtant, sur les deux étiquettes, on va vous mettre eau riche ou moyennement riche en sodium. Voilà la seule chose que vous aurez de lisible sur.
Donc les mentions ne veulent rien dire, il faut regarder les taux
les valeurs
de.
Réelles,
les valeurs. Alors on a détecté deux ennemis.
Mm-hmm.
Donc le sucre, le sel. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut repérer tout de suite?
Le gras.
Mais alors comment on le voit?
La molécule de lipide, le lipide c'est la matière grasse. Hein. est la molécule qui vaut le plus en calories. Lorsque vous mangez une molécule de protéines, vous mangez 4 calories. Lorsque vous mangez 1 gramme de molécule de sucre, vous mangez 4 calories. Lorsque vous mangez 1 gramme de molécule de lipides, vous mangez 9 calories. Donc oui, certes, la
presque
matière
double.
Grasse est
mais
très
comment je les trouve
à
comment repérer. Je les trouve, les lipides?
Alors ça, il n'y a pas 15 000 sortes de lipides ajoutés dans l'alimentation. Celle qui est la plus rentable d'un point de vue commercial, c'est l'huile. Et l'huile. Celle encore la plus rentable, c'est l'huile de palme, qui est la plus mauvaise pour notre système cardiovasculaire.
Et pas seulement pour le système cardiovasculaire, pour la planète
et pour
aussi.
Pour la planète tout entière, bien sûr.
Mais alors comment je le repère? Alors donc, il y a marqué huile.
Il va y avoir écrit simplement huile végétale, puisqu'ils n'ont pas une mention obligatoire, comme vous me disiez tout à l'heure justement, indiquant la catégorie, le style d'huile utilisée.
Oui, bien
à
alors,
contrario, si l'on vous vante les mérites d'un produit riche en oméga 3, là juste derrière, quand vous lirez l'étiquette, vous lirez huile de colza ou huile d'olive. Quand on vous dit que la teneur est garantie en, on a soit à l'origine du produit la vraie teneur, soit dans le mode de conservation du produit. Par exemple, les purs jus de fruits, vous allez en avoir certains au rayon classique et certains au rayon frais. Et bien sûr, ceux au rayon frais, on va souvent retrouver la notion teneur garantie en vitamine C. Forcément, le produit aura été gardé à la chaîne du froid, on n'aura pas eu de déperdition de vitamines. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour avoir une teneur garantie en vitamines, ils ont tout à fait le droit de vous l'avoir ajouté dans la bouteille.
Je ne peux pas acheter de produit qui n'est pas d'huile. Comment je fais?
Bah, tout dépend. Si vous achetez une matière première, il n'y aura pas d'huile végétale.
Oui.
Mais quand je dis produit cuisiné, souvent mes patients ont l'idée du plat cuisiné. Non, je parle du yaourt lambda. C'est du lait qui va être transformé. On n'est plus dans la matière première lait, on est dans le produit cuisiné. Donc on peut tout à fait vous avoir ajouté de l'huile.
Est-ce qu'il y a des produits cuisinés justement qui sont plus à inspirer la méfiance et d'autres la confiance?
Non, je dirais non, je dirais qu'il faut lire l'étiquette. Dans une marque donnée, ce qui me chiffonne de plus en plus, moi ça fait 21 ans que j'exerce ce métier, ça fait 19 ans que je fais des visites de supermarchés quotidiennes, hebdomadaires, excusez-moi. Ce que je note, c'est que même les marques intéressantes, et je ne parle pas des grandes marques industrielles, je parle même des petites marques qui démarrent une industrie vont avoir une éthique. Ça tombe bien sur votre radio. Une éthique. On va créer un produit intéressant pour une catégorie de personnes. Et puis, les années passant, il faut augmenter son chiffre d'affaires. Et pour augmenter son chiffre d'affaires, hélas, on va tendre un tout petit peu la main vers le diable en se disant « Oui, mais si je mets un tout petit peu d'huile, un petit peu de sucre ou un petit peu d'un produit moins intéressant pour la santé, je pourrais élargir ma gamme. » Et ça, on l'a retrouvé dans quasiment toutes les marques industrielles. Il y a quelques années, je vantais les mérites, je ne sais pas si je peux dire des marques, mais vous avez des petites galettes, c'est pas le terme, des petites tranches équivalentes à du pain qui étaient très bien avant, lorsqu'on voulait ne pas avoir du pain, du vrai pain boulanger. Hein, je ne parle pas du pain de mie ou des pains travaillés dans lesquels on va retrouver justement notre huile et notre sucre bien cachés. Dessous, ces produits étaient très bien. Et puis, en fait, en élargissant leur gamme, cette même marque, eh bien, depuis l'année dernière, vous vend, là, sous forme de petites galettes, la même chose, mais dans lequel on va retrouver de l'huile de palme et du sucre.
C'est parce que ça coûte pas cher.
Ben, c'est très rentable.
Voilà, c'est le sucre, le sel.
Plus une matière première de qualité, plus le.
Donc, en fait, il faut éviter les produits manufacturés trop, manufacturés.
Ah oui, bien sûr.
Relevez le goût, la saveur. Pas d'amour artificiel. Retrouvez l'appétit du bonheur. Pas de régime sans zèle. Relevez le goût, la saveur. Pas d'amour artificiel. Retrouvez l'appétit du bonheur. Pas de régime sans zèle. Feu doux, les souvenirs du mois d'août. Laissez reposer les malentendus.
servir en salade les fruits défendus. Si ça tourne en vinaigre et que ça fermente, mélanger les lèvres au diable au menthe. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans zèle. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans zèle. Pas de régime sans zèle.
Bon, alors donc on a vu le sucre, le sel, les huiles, qu'est-ce qu'il y a encore comme ennemi? Les œufs, 300 et quelques alors.
L'ennemi, c'est la tentation. C'est la tentation du nouveau produit dans une marque donnée. On va vous dire, ah, ce n'est pas, alors là encore, je ne vais pas citer de marque, mais on va vous dire, ce n'est pas un yaourt, c'est beaucoup plus doux. Ah oui, mais beaucoup plus doux, pourquoi? Parce que là, justement, on va vous avoir ajouté 25 grammes de crème par pot, par exemple. On oublie de vous le dire.
C'est bon la crème.
C'est bon la crème, mais consommée comme toute bonne chose, avec parcimonie.
Alors est-ce que c'est pas le cumul qui est gênant? Si par exemple on voit un produit qui est effroyable en termes d'équilibre alimentaire et de cochonnerie ajoutée, on se dit bon, je vais en manger un puisque le reste je vais faire attention. On peut faire ça, on peut se laisser tenter pour un aliment.
Il faut surtout se laisser tenter. Il faut faire des écarts dans notre alimentation. Mais l'écart, c'est une erreur alimentaire dont on a conscience. Le problème, bien souvent, c'est qu'à côté de ça, on fait beaucoup d'erreurs alimentaires. Et l'erreur alimentaire, c'est un écart dont on n'a pas conscience. Pour revenir à ce produit dans lequel on va vous avoir ajouté 25 g de crème, on va arriver à un laitage, par exemple, où vous allez avoir à l'intérieur de ce produit plus de 10 g de matière grasse. Il faut savoir quand même que 10 g de matière grasse dans un camembert, c'est un tiers du camembert. Donc vous allez vous dire, j'ai déjà mangé dans mon repas une viande. Une viande avec des petites pommes de terre sautées, tiens. Eh bien, vous allez consommer ce plat-là et bien, vous allez vous dire à la fin du repas, non, attention, j'ai déjà mangé des pommes de terre sautées, un petit beefsteak, pourquoi pas une petite noisette de beurre dessus. Je ne vais pas manger un morceau de fromage, je vais manger un laitage. Mais si vous ne lisez pas l'étiquette dans votre supermarché, au lieu d'avoir mangé un yaourt anodin au lait entier ne contient que 3% de matière grasse. Vous allez vous retrouver avec un produit à 10-12% de matière grasse qui est l'équivalent d'un tiers de camembert. 3 portions de fromage à la place d'un yaourt. Sans culpabiliser, puisque vous aurez été dans votre rayon laitage et non pas au rayon du fromage.
Et alors pour revenir à la question que Pascal posait tout à l'heure, les quantités journalières, vous disiez 10 grammes de graisse, mais ça représente quoi par rapport aux besoins journaliers?
Alors 10 grammes de graisse, par exemple, c'est une cuillère à soupe d'huile. Oui. Une cuillère à soupe d'huile, c'est la moitié de la quantité que vous devez manger par jour. Par jour, 2 cuillères à soupe d'huile suffisent. Mais normalement, c'est 2 cuillères à soupe d'huile, tout compris. C'est-à-dire l'huile que vous avez aussi dans votre pain de mie, l'huile que vous avez aussi de cachet dans un plat cuisiné. Nous avons à consommer par jour 30% de nos calories sous forme de matière grasse. Nous avons à manger par jour 55% de nos calories sous forme de glucides. Et lorsque je parle de glucides, c'est tout glucide confondu. Donc vous avez le sucre-sucre dont on parlait tout à l'heure. Mais le pain est un glucide. Les féculents sont un glucide. Les légumes secs sont d'excellents glucides. Les légumes verts contiennent des glucides. Les fruits contiennent des glucides. Donc vous voyez que lorsqu'on parle d'une notion de gras ou de sucre ou de protéines, protéines étant la dose complémentaire, les 15% qui restent, ça va dépendre de quel aliment vous parlez et de quelle composante de l'aliment vous parlez. Là, on parlait uniquement des matières grasses cachées que l'on ajoute dans l'alimentation, alors qu'en réalité, sur une journée, on ne doit pas dépasser 30 grammes de matière grasse ajoutée. Donc nos deux fameuses cuillères à soupe d'huile, plus ensuite 10 grammes de beurre ou 10 grammes de crème. Ce qui fait nos 30 grammes de matière grasse que l'on doit ajouter quotidiennement à l'alimentation. Et pourquoi ces 30 grammes sont obligatoires ? On parlait d'oméga 3 tout à l'heure. Nos matières grasses, essentiellement végétales, vont être intéressantes pour notre système cardiovasculaire. Plus grasse que les autres, puisque l'huile est la matière grasse la plus riche que le beurre, plus riche que la crème. On pourrait se dire donc qu'il faut supprimer l'huile. Si je supprime l'huile, je supprime ma défense cardiovasculaire. A contrario, on pourrait se dire, alors je ne vais garder que l'huile pour défendre mon système cardiovasculaire, mais dans l'huile, il y a des vitamines que vous n'avez pas et que vous ne retrouvez que dans les matières grasses d'origine animale, le beurre, la crème fraîche. Voilà pourquoi il faut un petit peu des deux.
Mais alors, si j'étais un peu provocateur, les diététiciens nous ont dit il y a quelques années qu'il fallait manger plus de végétaux, plus de... Oui, mais du coup, on a modifié notre rapport entre les oméga 6 et les oméga 3. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut ajouter les oméga 3. Mais si on doit rajouter les oméga 3, c'est parce qu'on a mangé trop d'oméga 6. Alors comment on fait pour, pratiquement pour manger les oméga 3?
Mais parce que le problème, c'est que notre alimentation est toujours liée à l'industrie alimentaire. Combien de fois par semaine vous faites vos courses?
J'avoue que j'ai eu des pouces, moi, mais j'ai eu des pouces qui m'aident bien, mais je vais au marché une fois par semaine. Donc, je vais quand même au marché local. Moi, j'adore les petits marchés.
Vous allez au marché, vous allez voir votre poissonnier préféré.
Non, je vais voir mon marchand de légumes.
Ah, et vous n'achetez jamais de poisson?
Pas au marché, non.
Mm-hmm. Pas au marché.
Le poisson, je le réserve quand je suis. Enfin, j'aime bien les poissons qui sont goûteux. Moi, j'aime bien acheter sur place, aux pêcheurs ou dans des lieux de résidence. Et le poisson qui est resté 15 jours dans la glace, je supporte mal.
Que le poisson devrait faire une plus grande part de notre alimentation.
Mais vous avez vu ce qu'on mange comme poisson?
Poisson parisien, le poisson glacé.
Le poisson carré.
Oui, mais parce que les gens ne connaissent que le poisson carré.
Ben oui, voilà, les enfants.
Parce que c'est le poisson qui coûte le moins cher.
Ben oui.
C'est la seule question. On revient toujours au même débat de l'industrie alimentaire. Si vous allez dans votre rayon...
Le thon est plein de mercure, le saumon aussi.
Mais parce qu'on va avoir évalué ça sur un moment donné pour faire un grand coup médiatique, mais vous allez avoir la même chose chez votre petit marchand de légumes qui aura vu des avions passer tous les jours au-dessus de sa tête et qui aura subi la pollution parisienne si votre petit maraîcher il vient de votre petit coin à l'est ou à l'ouest de Paris. Mais parce que ce n'est pas évalué. On est dans un monde à l'heure actuelle où on est en gros flash. Quand j'ai commencé à travailler à Saint-Jean-de-Mont, au centre de Thalasso, on était parti sur le mode d'alimentation crétoise. Donc on y allait à l'huile et à l'huile d'olive et à l'huile d'olive et on ne vantait que les mérites de l'huile d'olive.
Et à la salade de pourpier.
Et surtout pas l'huile de colza.
Oui.
Quand j'ai fait mes études de diététique, j'ai appris le béaba, on va dire, des ingrédients que l'on peut retrouver dans les aliments. J'étais très surprise, puisqu'on m'a toujours appris l'huile d'olive, l'huile de colza, même combat. Et pourtant, on ne retrouvait nulle part l'huile de colza dans les supermarchés. Vous ne trouviez pas l'huile de colza. Et pourquoi ça? Parce que ça ne coûtait pas cher. Donc, on ne pouvait pas dire qu'un produit était extrêmement intéressant pour la santé et pas cher, vous imaginez, l'huile d'olive,
on peut faire cuire l'huile de colza.
Mais si, vous pouvez...
Elle se dégrade pas.
L'huile de colza, elle va pas se dégrader.
Elle garde ses quantités d'oméga 3.
Elle va se dégrader bien moins vite que l'huile d'olive. C'est une huile qui... Elle ne saute pas. Une huile qui saute se transforme. Une huile qui ne saute pas, elle tient bien la température, donc elle va pouvoir être cuisinée.
En somme, l'étiquette, il y a le devant, on sait si on achète, on fait la différence entre la farine et du beurre, ça c'est comme une mention évidente et obligatoire. L'étiquette se regarde par son derrière,
oui.
C'est-à-dire que...
Il y a six côtés à un emballage, et on ne met l'argument publicitaire que sur le côté le plus visible. Ensuite, on va vous placer les produits dans les rayons pour que vous achetiez une marque plutôt qu'une autre. Dans un supermarché, on réalise ce qu'on appelle un squelette du rayon. Tous toutes les personnes qui sont en lien avec les produits vont se réunir un jour dans votre supermarché. Le responsable du rayon aura retiré tous les produits du rayon et n'aura mis qu'un exemplaire de chaque produit. Et ensuite, tous les commerçants bien sûr de toutes les marques représentées dans ce magasin, se retrouvent et déterminent qui va être où. J'ai assisté à ça, c'est passionnant, il faut vivre ça une fois dans sa vie. J'étais persuadée que la hiérarchie allait se faire en fonction des desiderata du responsable de magasin, ce qui est entièrement faux. Je pensais que les personnes avec qui j'allais travailler allaient connaître l'aliment qui était dans le rayon, ce qui est entièrement faux. La seule chose qui fonctionne, c'est les parts de marché publicitaires, industrielles, voilà. Donc en fonction de listing et de statistiques, ils savent qu'ils passent tant de fois à la télé, à tel créneau horaire, ils sont obligés d'être là dans le rayon. Et ils ont le droit d'avoir 1, 2, 3 facsimiles, vous savez, les rangées que l'on va obtenir.
Donc de façon sommaire, sur le devant de l'emballage, c'est peut-être beaucoup plus fantaisiste, alors qu'au dos, l'étiquette est beaucoup plus...
Il y a une appellation produit. Vous allez pouvoir lire, je reviens toujours à mon rayon laitage, parce que pour moi c'est le rayon où il y a le plus de diversité intellectuelle, point de vue nutritionnel. Vous allez avoir le mot yaourt. Mais mon fameux produit dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel vous avez ajouté quand même 25 grammes de crème, ça s'appelle une spécialité laitière. Donc déjà, lorsque vous lisez sur l'emballage le terme de spécialité laitière, c'est parce que l'industriel n'a pas eu le droit de mettre l'appellation yaourt. Et pourquoi il n'a pas eu le droit de mettre l'appellation yaourt? Parce qu'il n'y a pas plus de 75% de yaourt dans son pot. Tout le reste, ce sont des produits ajoutés qui peuvent être simplement notre fameuse crème fraîche. J'ai 75% de yaourt et 25% de crème fraîche, mais on peut très bien vous avoir mis très peu de crème, voire pas de crème, du sucre, de l'amidon modifié, des fruits, des colorants, des conservateurs, etc.
C'est vrai, Emmanuel Chauvin, qu'il faut se méfier des appellations extrêmement inventives et élaborées.
Oui, tout à fait.
Et se dire qu'un œuf doit être un yaourt, et oui. du beurre.
Et du beurre. Alors que sur vos emballages de beurre, on me parle souvent en consultation, tiens, j'ai mis du beurre à 15% de matière grasse. Enfin, ça n'existe pas. Le beurre, c'est 82% de matière grasse. 80 si c'est du beurre salé, 82 si c'est du beurre doux. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence des 2 grammes de sel ajouté. Ensuite, si ce beurre est dit allégé, il est forcément à 40 ou 41%, puisqu'on a retiré la moitié de la matière grasse. Vous doutez de
comment
ce
on fait pour l'alléger, justement?
Eh bien, on prend la barquette, on coupe la barquette en deux, enfin, on retire la moitié de ce qu'il y a dans la barquette, et d'après vous, qu'est-ce qu'on vous a mis à la place?
Ah, j'ose pas le dire.
De l'eau. De l'eau, puisque l'eau ne coûte rien à l'industriel, donc il va faire un chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant, on va vous vendre plus cher. Puisqu'il y aura eu une manipulation faite entre les deux.
D'accord.
Mais si vous ne mélangez que ce beurre avec de l'eau, votre beurre il va devenir tout mou, il ne va pas être bon, il ne va pas avoir de goût. Donc qu'est-ce qu'on va vous mettre? Un joli exhausteur de goût, un joli amidon modifié.
Des E, là, tous les E.
Et les E derrière, bien voilà. Sûr. Et dans le moins pire des cas, on va vous avoir remis les vitamines qu'on vous a retirées dans la moitié du beurre. Donc on va se retrouver avec un produit qui va contenir des glucides, puisqu'on vous aura mis de l'amidon modifié. L'amidon modifié, c'est le pire aliment qui soit en termes d'index glycémique. C'est une composante alimentaire qui est de 100% sur l'échelle de 0 à 100, elle est à 100.
C'est le pire des mauvais sucres.
C'est le pire des mauvais sucres, qui en plus n'a pas goût de sucre. Donc, on peut le mettre un peu partout pour donner cette texture agréable. Et en deçà de la moitié du pot avec le beurre, on n'a plus le droit d'appeler ça du beurre, ni du beurre allégé. Ça s'appelle une pâte à tartiner à base de matière grasse laitière allégée. Je vous mets au défi, vous retournez l'emballage, ils sont obligés de vous le mettre. Mais là, sortez la loupe de votre caddie, parce que c'est écrit très 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 petit. Et donc, on est rendu à un produit qui s'appelle une pâte à tartiner.
C'est aussi une mention qu'on trouve souvent, contient tant de calories.
Oui.
Alors est-ce que c'est pas un piège, ça?
Ah,
aussi
tout à fait, voilà. Puisque vous pouvez consommer 90 calories en buvant une très délicieuse coupe de champagne. Et vous pouvez consommer 90 calories en mangeant ma cuillère à soupe d'huile. Vous pouvez manger 90 calories en croquant 2 pommes très bonnes.
Donc on ne garde pas la mention calories.
Donc les calories ne veulent strictement rien dire pour des personnes qui n'y connaissent rien dans le monde de la diététique. Les patients sont très surpris quand ils sortent de mon bureau et me disent « Je ne pense pas être capable de manger autant ». Je leur dis, mais la diététique n'a aucun rapport avec la quantité de ce que l'on mange. c'est un rapport avec ce qu'il y a dans la quantité que vous mangez.
En somme, c'est pas si compliqué, Emmanuel Chauvin, d'aller faire ses courses au bout du compte. Il faut bien sûr avoir sa loupe, mais il faut avoir les idées bien en place, c'est-à-dire qu'un aliment doit porter son nom. Et comme on aurait dit, un chat est un chat, c'est-à-dire qu'un œuf est un œuf, du beurre est du beurre, un yaourt est un yaourt, et si ce n'est pas le cas, c'est là où la méfiance
peut
commencer.
Tout à fait. Alors avant de lire toutes les étiquettes de tous les produits de votre supermarché que vous allez être obligé de côtoyer 24 heures sur 24 pendant un mois et demi, commencez par lire les étiquettes des produits que vous avez déjà dans votre placard. Et de vous faire déjà une idée, vous dire, tiens, ce produit, effectivement, l'huile apparaît en troisième, alors que c'est un petit gâteau sec, par exemple, je donne cette idée. Est-ce que cette huile qui apparaît en troisième, ma quatrième mention, ça va être la figue, par exemple. Et la figue, je vais en avoir 10%. Si la figue, j'en ai 10%, et que l'huile est citée avant, ça veut dire que l'huile, j'en ai plus de 10%. Mais si la figue et les deux, trois autres additifs derrière ne vont représenter que 20%, ça veut dire que l'huile et les deux autres ingrédients juste avant vont représenter 80% de l'emballage. Si forcément l'huile est le troisième ingrédient, pour faire un gâteau sec, il n'y a pas de miracle, il faut de la farine et il faut du sucre, eh bien le sucre et la farine seront cités avant. On est dans un produit qui va être forcément très antidiététique. Donc vous voyez qu'une lecture d'étiquette, finalement, est simplement logique. Et pour moi, l'équilibre alimentaire, la diététique, c'est simplement de la logique.
La diététique, c'est de la logique, c'est ce que l'on retiendra de cette émission live grâce à l'éclairage d'Emmanuel Chauvin. Merci à Pascal Mercadji et Jacques Labesca et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau live sur Radio Éthique.